Radio Kapi.
Disneyver à Kibirizi, nous sommes au Nord Kivu. À la une de cette édition, aucune transition énergétique n'est peut-être juste si les peuples producteurs continuent de souffrir. C'est l'interpellation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC aux dirigeants du monde, alors que des initiatives de recherche de paix dans l'Est du pays se multiplient. À Matadi, les esprits des vendeurs du marché Ango Ango sont surchauffés. En cause, la mesure des autorités visant à délocaliser leur lieu de négoce. Ce soir, nous recevons Vanessa Chimpaka, chef de section du programme national des nutritions, et nous parlera des stratégies nécessaires pour contenir la malnutrition. Nous sommes dans la province du Maniema. Ronelyne Thibonera-Idiamine, je présente cette édition. Nous débutons par la ministre des Affaires étrangères ou la République démocratique du Congo plaide pour une approche globale de la paix dans l'est du pays. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, elle a insisté sur la nécessité de lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et les réseaux qui alimentent les groupes armés. Déclaration donc de Thérèse Kayikwamba alors qu'elle présidait mercredi la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'écoute dans cette extrait sélectionné par Élisée Chikota.
Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il ne peut y avoir de transition énergétique véritablement juste si elle repose sur l'injustice faite au peuple producteur. Il ne peut y avoir de chaîne d'approvisionnement réellement sûre sans sécurité pour les États et les communautés qui produisent ces ressources. C'est pourquoi la République démocratique du Congo ne vient pas devant le Conseil de sécurité pour se plaindre. Elle vient partager une expérience, porter une conviction et proposer une voie. Car la situation de la République démocratique du Congo n'est pas une exception. Elle révèle un déséquilibre mondial auquel seule une action collective fondée sur l'équité et la responsabilité permettra d'apporter une réponse durable.
Nous partons à Beni alors que les combats se poursuivent dans le province du Nord Kivu et du Sud Kivu entre le FARDC et l'AFC M23. Des experts des Nations Unies dénoncent un recours systématique à la torture, aux violences sexuelles et aux détentions arbitraires dans les zones contrôlées par les groupes armés. Dans un communiqué publié le 21 juillet à Genève en Suisse, ils appellent à une relance du cessez-le-feu et exhortent toutes les parties au conflit à protéger les populations civiles. Les détails avec Martial Papimouké.
Dans leur communiqué, les experts de l'ONU dénoncent un système de terreur imposé par l'AFC M23 dans les territoires qu'ils contrôlent. Selon les communiqués, les groupes armés recourent aux arrestations et détentions arbitraires, à la torture, y compris sexuelle, au travail forcé et au recrutement forcé pour contrôler les populations civiles. Des enlèvements, des incendies criminels et des actes de chantage sont également signalés. Les experts indiquent aussi que des civils seraient détenus dans des lieux secrets, dans des conditions très précaires et que plusieurs décès en détention auraient été recensés. Il rappelle que les femmes et les filles sont les principales victimes des violences sexuelles liées au conflit et demande que ces crimes fassent l'objet d'enquêtes afin que leurs auteurs répondent de leurs actes. En fait, les experts appellent toutes les parties à respecter les droits internationaux et exhortent les États ainsi que les Nations Unies à soutenir la relance du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Beni. Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
En Ituri, la MONUSCO réaffirme son engagement aux côtés des forces congolaises. Le commandant de sa force, le général Ulysse de Mesquita Gomez, a rencontré mercredi le gouverneur de province, le général Gabi Kassongo. Les deux personnalités ont notamment échangé sur les questions sécuritaires, la protection des civils ainsi que la réponse à l'épidémie d'Ebola qui continue d'occasionner des décès dans cette province considérée comme l'épicentre de la maladie. Le responsable militaire onusien revient sur la coopération entre la MONUSCO et les FARDC. Suivez ces propos sélectionnés par Jean-Claude Lokidile.
J'ai présenté
Les résultats des opérations conjointes menées par les FDC et la MONUSCO qui ont renforcé la protection des civils et amélioré la situation sécuritaire. J'ai aussi souligné l'appui logistique et aussi le travail de la formation et aussi le renforcement de la formation des soldats de la FDC. Concernant la réponse à l'épidémie d'Ebola, j'ai réaffirmé que la MONUSCO continue à soutenir les autorités sanitaires et les FDC sur la protection des centres de traitement. Et j'ai réaffirmé au gouverneur et aussi à la population que la MONUSCO continue travailler ensemble et FDC pour la protection des civils dans la province de Ituri.
Je l'ai dit au sommaire, l'inquiétude grandit chez les commerçants du marché transfrontalier d'Ango-Ango-Noki à Matadi, dans la province du Congo central. Ils dénoncent la décision des autorités de délocaliser leur espace d'activité qu'ils considèrent comme une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles vivant du petit commerce entre la RDC et l'Angola. Ces opérateurs économiques appellent les maires de Matadi à reconsidérer cette mesure et à engager un dialogue avec toutes les parties concernées. Élise Kavira pour les détails.
Pour de nombreux commerçants, le marché d'Ango-Ango-Noki n'est pas qu'un simple lieu d'échange. C'est une source essentielle des revenus. Face au projet de sa délocalisation, Medangoma, vendeuse d'oranges, exprime ses inquiétudes.
Nous voulons savoir où nous serons installés, parce que ça doit nous faciliter les échanges commerciaux avec nos voisins angolais. Cela nous aide beaucoup. Si nous allons loin, ça va vraiment nous handicaper.
Si certains commerçants redoutent les conséquences économiques de la délocalisation, Jean Tango met surtout l'accent sur la sécurité des marchands. Il plaide pour l'aménagement d'un espace proche de la frontière afin de préserver à la fois les échanges commerciaux et la protection des vendeurs.
Ici, nous sommes dans un camp. Nous passons la nuit dehors avec des fortes sommes d'argent. Nous sommes en sécurité parce qu'il y a des militaires. Les autorités peuvent aménager l'espace vide derrière le péage pour que les marchés soient déplacés de cet endroit. Comme ça, la frontière restera libre et
propre. Contacté, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, se veut rassurant. Il affirme que le nouveau site se trouve à seulement 200 mètres de la frontière et promet d'apporter des réponses aux préoccupations des commerçants lors des discussions prévues avec eux. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Nous nous rendons à Mahagi dans la province de l'Ituri où la société civile dresse un bilan des 13 blessés au lendemain des manifestations organisées lundi pour dénoncer notamment les tracasseries routières et plusieurs autres préoccupations locales. Selon ces structures locales, les blessés n'ont pas été atteints par balles. Ils auraient été touchés dans la panique provoquée par la dispersion des manifestants par les forces de l'ordre. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'après le président de la société civile de Mahagi, les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à l'aide de tirs de sommation au stade de Mamba où se déroulait le rassemblement. Pris de panique, plusieurs participants ont tenté de fuir dans le désordre. 13 personnes auraient été blessées, notamment après des chutes dans des excavations situées aux alentours du stade. Les victimes ont été évacuées vers différentes structures sanitaires de Mahagi pour recevoir des soins. Toujours selon la société civile, ces manifestations ont fortement perturbé les activités dans plusieurs centres du territoire. Les commerces et d'autres services sont restés fermés pendant une grande partie de la journée. Contacté par notre rédaction, l'administrateur du territoire de Mahagi n'a pas souhaité réagir à cette situation. La société civile affirme avoir transmis aux autorités un mémorandum contenant plusieurs recommandations. Elle espère que l'arrivée depuis hier mercredi sur place d'une délégation provinciale permettra d'ouvrir un dialogue avec les autorités locales afin d'examiner les revendications des manifestants et de contribuer à l'apaisement des tensions. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le village d'Entoto, situé dans le groupement de Walowa Uroba, territoire de Walikale, sort progressivement de son isolement. Mercredi, les habitants ont accueilli leur première moto-taxi après plusieurs décennies d'enclavement grâce à l'achèvement de la première phase des travaux d'ouverture de la route Bouimba-Ntoto, long de 54 kilomètres, et ces travaux sont financés sur fonds propres du secteur de Wanyanga. Des détails avec Bernadette Nyangi.
Selon le chef de secteur de Wanyanga, le docteur Descartes Akilimali Wamusho, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal de développement local lancé en 2024 et dont la mise en œuvre devrait se poursuivre jusqu'en 2029. Cette première phase a permis d'ouvrir l'axe routier reliant Bouimba en Toto, l'objectif étant de connecter cette route au réseau Walikale Centre Ngora et à terme de renforcer la liaison entre Walikale et la cité de Nyabiondo dans le territoire voisin de Massissi. Pour le responsable du secteur, moins d'une dizaine de kilomètres restent à aménager pour assurer la continuité complète du tracé. La deuxième phase des travaux portera notamment sur la construction d'ouvrages de franchissement, l'aménagement des zones marécageuses ainsi que la réalisation de caniveaux afin de permettre la circulation des véhicules jusqu'en Toto. Le coût total de ce projet est estimé à 450 000 dollars américains financés par les recettes locales issues des taxes, impôts et redevances minières. À travers ce projet, les autorités locales entendent désenclaver les villages, stimuler les échanges économiques et améliorer les conditions de vie des populations.
Nous quittons le Nord Kivu pour le Sud Kivu, où la nouvelle société civile du territoire des Kalehe appelle les propriétaires d'embarcations, les transporteurs et les voyageurs à respecter les limites des chargements sur les lacs Kivu. Un appel lancé pour prévenir les accidents liés à la surcharge des embarcations bateaux en cette période de forte vague. Son président Benjamin Mungazi demande aux usagers de renforcer leur vigilance sur les lacs très fréquentés par les populations riveraines. Il explique au micro des Radio Okapi.
La nouvelle société civile met en garde les usagers des bateaux ou des renforts qui portent les passagers en provenance de divers villages de Kalehe, tels que Kalehe Goma, Kalehe Bukavu, malgré la situation de l'atmosphère, de ne pas charger au-delà de l'enjeu et y mettre des passagers pour cette période d'une forte vague communément appelée Shabira Balamba. Au besoin, s'il y a beaucoup de marchandises, qu'il y ait une beauté ou un renfort pour ça, et une autre pour les passagers, pour ne plus risquer la vie du paisible citoyen dans l'état inattendu sur le lac Kivu. Nous demandons aux personnes de bonne volonté, aux autorités compétentes, au gouvernement de s'impliquer tous et venir en aide de la population du territoire de Kalehe et surtout celle du groupement de Mbinga Nord avec des moteurs, des canons rapides pour intervenir en cas d'un événement ou d'une circonstance sur le lac Kivu.
De nombreux centres de santé des Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, fonctionnent encore sans accès à l'eau potable ni à l'électricité. Une situation qui complique les travaux du personnel soignant et affecte la qualité de la prise en charge des patients. Pour contribuer à l'amélioration de ces conditions, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre a remis à cette structure sanitaire un forage d'eau, un kit solaire, un kit informatique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Mwinda qui vise à renforcer les services de santé en améliorant les conditions de travail des prestataires de soins. Reportage signé André Katende Ngalamouloumé.
Six centres de santé, notamment Sainte-Thérèse, Saint-Joseph, La Persévérance, Christ-Roi, Mamouetou et Croix-Rouge, ainsi que l'hôpital général de référence de Lukonga, bénéficient de cet appui logistique. Dans ces structures sanitaires, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur. Les fréquentes coupures d'électricité perturbent régulièrement les prestations des soins, tandis que le manque d'équipement informatique complique la gestion et l'archivage des données médicales. Grâce à ces nouvelles installations, les bénéficiaires espèrent améliorer les conditions de travail du personnel soignant et offrir les soins de meilleure qualité aux patients.
Pendant de nombreuses années, nous avons assuré des accouchements et des soins d'urgence à la lumière des lampes torches. Le manque d'eau compromettait les règles d'hygiène. Nous avons également été confrontés aux difficultés de transmission des données sanitaires.
Pour l'ANSER, ces ouvrages permettront de renforcer les services de santé et d'améliorer les conditions de travail du personnel, comme l'explique Alexis Moulomba, coordonnateur pour le Grand Kasaï. Présent à la cérémonie, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a appelé les responsables des structures bénéficiaires à assurer une gestion responsable de ces équipements afin qu'ils profitent durablement aux populations. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Actualité internationale, Donald Trump a annoncé ce jeudi via son réseau social Truth Social que l'accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite était entièrement conditionné à la ratification des accords d'Abraham par les royaumes reconnaissant de ce fait l'État d'Israël. Les gardiens de la révolution ont pour leur part annoncé jeudi avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de franchir les détroits d'Ormuz, sans préciser à quel moment, disent nos sources dans cette partie du monde.
L'invité.
Vanessa Chimpaka, nutritionniste et chef de section du programme national des nutritions Pronanit, est notre invitée en mission dans la province du Maniema. Elle mène des actions de sensibilisation auprès des communautés, en particulier des femmes, avec l'implication des hommes sur l'adoption de bonnes pratiques nutritionnelles pour lutter contre la malnutrition. Vanessa Chimpaka s'entretient avec Florence Kizalunga.
Vanessa Chimpaka, bonjour.
Bonjour, maman.
Aujourd'hui, vous parlez de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Qu'est-ce que cela veut dire?
L'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ce sont les bonnes pratiques alimentaires que les ménages doivent mettre en œuvre pour assurer une croissance harmonieuse de nos enfants.
Assurer une croissance harmonieuse de nos enfants, mais il s'observe que, par exemple, dans la province du Maniema, un enfant sur le 2 de moins de 5 ans souffre de la malnutrition. Qu'est-ce qui est à la base?
Ce qui est à la base, c'est le manque de la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Parce que quand on regarde dans la province de Maniema, dans la ville de Kindu par exemple, où nous sommes, il y a quand même cette disponibilité alimentaire. Mais les problèmes se posent sur la mise en œuvre des bonnes pratiques alimentaires.
Quelles sont ces bonnes pratiques?
Les bonnes pratiques alimentaires, on commence d'abord par l'allaitement maternel optimal. Donc nous avons la mise au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. L'enfant doit être déjà mise au sein pour favoriser une montée laiteuse chez la mère et l'enfant doit bénéficier du premier lait. En dehors de la mise au sein, nous avons l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire ne donner à l'enfant rien que le lait maternel. Pas autre chose, même pas de l'eau.
Mais quand l'enfant réalise 6 mois, on peut ajouter quelque chose. Obligatoirement, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour l'enfant après les 6 mois?
Oui, effectivement, à partir des 6 mois, le lait maternel ne couvre plus tous les besoins nutritionnels de l'enfant. Voilà pourquoi on doit introduire une alimentation de compléments adéquate. Et qui dit alimentation de compléments adéquate, c'est-à-dire une alimentation qui a tous les groupes d'aliments. C'est-à-dire, on doit trouver les protéines d'origine animale, les protéines d'origine végétale, on doit trouver les lipides, on doit trouver les glucides dans ce que les enfants mangent, on doit trouver les vitamines ainsi que les minéraux dans l'alimentation de l'enfant.
Madame, vous pensez que seulement avec le problème de l'allaitement, c'est ce qui constitue la cause majeure pour la malnutrition dans la province? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes?
Oui, bien sûr, il y a d'autres causes, notamment la maladie. Un enfant qui tombe malade, il perd l'appétit, il ne s'alimente pas suffisamment et facilement il peut tomber dans la malnutrition. Et en dehors de ça, nous avons aussi ces problèmes d'accès aux soins et à l'eau qui sont aussi parmi les causes qui amènent les enfants à développer la malnutrition. Et une autre cause aussi, c'est les ménages eux-mêmes. Là, il y a l'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Les ménages ont du mal à se procurer les aliments pour les enfants. Et aussi, il y a ces changements de comportement que nous devons tous avoir. Donc, nous devons développer des jardins parcellaires, par exemple. On peut faire des petits élevages, de telle sorte que chaque ménage puisse, ne fût-ce que, se suffire en matière des aliments pour les enfants.
À ce stade où se trouve notre pays, où il y a un taux élevé de malnutrition, est-ce qu'il y a espoir encore de rentrer au niveau zéro?
Oui, il y a espoir de revenir au niveau zéro parce que les pays déjà développent plusieurs stratégies. On a l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants. On a la nutrition à assise communautaire dans lesquelles il y a des interventions où si chacun mettait la main à la pâte, effectivement, on va régresser.
C'est-à-dire, les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas seulement les familles. Il y a aussi la part du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour lutter contre ces fléaux?
Oui, le gouvernement peut appuyer les cultures paysannes pour qu'il y ait quand même une production suffisante des aliments locaux, bien sûr. Et de l'autre côté, les ministères de la Santé, on peut aussi intensifier la sensibilisation des ménages, des communautés, sur l'utilisation correcte de ces aliments et de ne pas toujours avoir tendance à penser que ce sont les aliments importés qui sont plus nutritifs et on néglige souvent notre propre production locale.
Ces matières sont très importantes. Est-ce que les Pronanit, vous allez prendre l'engagement de multiplier aussi, d'intensifier des sensibilisations pour permettre surtout aux femmes de savoir les bonnes pratiques nutritionnelles?
Oui, effectivement, les Pronanut est engagé dans cet angle-là, de pouvoir mobiliser, sensibiliser les femmes, bien sûr avec l'appui des hommes, parce que pour une alimentation adéquate, on a toujours besoin aussi du soutien des hommes.
Vanessa Chimpaka, merci.
Merci beaucoup, madame.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition présentée par Ronéline Tibonera Idi Amin dans une mise en nom de Jean-Claude Siala. À tous et à toutes, excellente soirée sur Radio Okapi.